accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est une victoire qui ne passe pas. Le 2 avril dernier, Aleksandar Vučić, un ultranationaliste converti au centre droit, remportait haut la main, dès le premier tour, les élections présidentielles en Serbie. Trop belle victoire, dénonce aujourd'hui l'opposition et des milliers de manifestants qui défilent tous les jours à 18h dans le centre-ville de Belgrade. Fraude électorale, corruption, censure contre les médias. Les raisons de la colère sont nombreuses. Reportage sur place de Philippe Bertinchamp.
Combien de manifestants dans les rues de Belgrade ce samedi 8 avril à l'appel des étudiants et des syndicats de la police et de l'armée? 2000 selon la radio-télévision publique serbe RTS, 10 000 selon la police, 15 000 selon l'agence de presse indépendante Beta, 80 000 selon les organisateurs. Une chose est sûre, ce jour-là, la colonne faisait plus de 2 km de long et les artères de la capitale serbe étaient noires de monde.
Je suis venu apporter mon soutien aux étudiants, à la police, à l'armée, à tous ceux qui manifestent. Je suis d'accord avec eux.
Dans la foule hétérogène, beaucoup d'étudiants. Coups de sifflet, tambours et trompettes. Les slogans pleuvent. Vučić voleur, t'es foutu, la manipulation, ça ne passe plus. On croise aussi bien des militants des différentes chapelles de l'extrême gauche serbe que des groupuscules de l'extrême droite, mais aussi des profs, des parents, des vétérans des manifestations contre Milošević à la fin des années 90 et en 2000, et pas mal de retraités venus apporter leur soutien. Les drapeaux ou les insignes des partis politiques d'opposition sont quasiment invisibles.
Il faut les aider.
On doit tous les aider comme on peut. Il faut sortir manifester et pour cela, il suffit de porter une pancarte ou d'acheter une trompette.
Depuis lundi 3 avril, tous les jours à 18h, des milliers de Serbes se rassemblent spontanément partout dans le pays pour exprimer leur ras-le-bol contre l'obscurantisme des médias et la dictature. Ils dénoncent le régime autocratique du président élu le 2 avril, dès le premier tour du scrutin, avec plus de 55% des voix. Le premier ministre et chef du tout-puissant parti progressiste de Serbie, Aleksandar Vučić. Au lendemain de ce score difficilement crédible, le seul président serbe à avoir été élu au premier tour a été Slobodan Milošević, il y a plus de 25 ans, les Serbes se sont réveillés et les accusations volent en vrac. Mainmise du parti sur les institutions et les médias, intimidation des citoyens, corruption, fraude électorale et détournement de centaines de milliers de voix. Nedim Sadinović est le président de l'association des journalistes indépendants de Vojvodine, la province autonome du nord de la Serbie.
La liberté des médias en Serbie est en danger. On peut dire qu'elle s'est aujourd'hui déplacée sur Internet. Les plateformes traditionnelles sont toutes sous le contrôle du parti progressiste de Serbie au pouvoir. Cela peut se voir dans les kiosques à journaux, mais aussi en zappant à la télévision. La domination du SNS d'Aleksandar Vučić sur certaines chaînes en Serbie est absolue.
Ainsi, lors de la campagne électorale, le premier ministre candidat a obtenu près de 4 heures de temps de parole de plus que tous ses adversaires cumulés. La chaîne privée Pink lui a accordé plus de 11 000 secondes contre 23 à Saša Janković, le candidat de la société civile, arrivé deuxième au terme du scrutin.
Ovakva medijska situacija, način na koji vlada Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.
Cette situation des médias, comment Aleksandar Vučić et le SNS usurpent toutes les institutions, insultent leurs adversaires politiques et les électeurs, tout cela provoque la colère d'un grand nombre de citoyens. La société est divisée, cela peut conduire dans un avenir proche à des turbulences politiques graves, voire à un conflit ouvert.
Jusqu'à présent, du moins, aucun leader n'a émergé. La semaine dernière, cependant, les étudiants des universités de Belgrade et de Novi Sad ont formulé leurs revendications. Démission des membres de la commission électorale et de l'autorité de régulation des médias, démission de la présidente de l'Assemblée nationale, du rédacteur en chef de la chaîne télévisée publique RTS et de son directeur de l'information, révision des listes électorales, introduction du vote électronique. Ils réclament en outre un nouveau gouvernement, l'abolition de la censure et la suspension des mesures d'austérité. De nouveaux rassemblements sont prévus tout au long de la semaine, partout en Serbie.
Des
des rafles contre la communauté homosexuelle, des arrestations arbitraires, des cas de torture, des morts aussi. Nous parlons bien du continent européen, plus précisément du nord du Caucase et de la Tchétchénie. Pour comprendre, on retrouve la correspondante de RFI à Moscou, Muriel Pomponne. L'affaire a été révélée par le journal russe Novaya Gazeta, Muriel.
Oui, une journaliste qui connaît bien la Tchétchénie a publié un article selon lequel une véritable rafle dans les milieux homosexuels aurait eu lieu récemment. D'après des informations qu'elle dit avoir recueillies dans ces milieux homosexuels, mais aussi auprès des forces de l'ordre et de l'administration de la République, une centaine de personnes homosexuelles ou soupçonnées de l'être auraient été arrêtées, maltraitées, parfois torturés, et 3 personnes au moins auraient été tuées. Des ONG ont confirmé les arrestations et les enlèvements, et un réseau LGBT a mis en place un numéro d'urgence pour aider ceux qui veulent à fuir le Caucase.
La situation des homosexuels dans les républiques du Caucase du Nord est particulièrement difficile, Muriel.
Oui, être soupçonné d'être homosexuel dans le Caucase du Nord, c'est risquer d'être tué, parfois par sa propre famille. Alors, quelqu'un qui a été arrêté ou enlevé car on le soupçonnait d'être homosexuel, eh bien, ne peut pas rentrer chez lui. La seule solution pour lui, c'est de fuir. Depuis cette vague d'arrestations, la plupart des homosexuels ont fermé leurs comptes sur les réseaux sociaux. Certains ont fui juste parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait été arrêté, ce qui peut le désigner comme une victime potentielle. Un autre journaliste qui a travaillé sur ce sujet il y a quelques années dit qu'en fait la situation s'est dégradée. Des témoins auxquels elle avait parlé à l'époque refusent désormais de témoigner.
Et comment ont réagi les autorités ?
Bien, le porte-parole de la présidente tchétchène a expliqué qu'on ne peut pas arrêter les homosexuels en Tchétchénie tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et la chargée des droits de l'homme a déclaré que la justice serait très clémente avec les familles qui tueraient éventuellement l'un des leurs s'il est homosexuel. Elle s'est depuis rétractée. À Moscou, le porte-parole du Kremlin, qui a cru bon de préciser qu'il n'était pas spécialiste en relations non traditionnelles, a conseillé aux victimes de déposer plainte auprès de la police, donc en fait auprès de ceux qui les ont justement arrêtés et torturés. La médiatrice russe pour les droits de l'homme, elle, a dit n'avoir reçu aucune plainte. Mais les organisations de défense des droits humains, comme Amnesty ou Human Rights Watch, poussent les autorités à ouvrir une enquête indépendamment de toute plainte, car avec les risques existants, et bien évidemment, jamais personne ne va déposer plainte. Et cette affaire s'est compliquée d'une polémique sur les causes de ces rafles. La journaliste de Novaya Gazeta met en cause un activiste de la cause homosexuelle qui a demandé aux républiques du Caucase l'autorisation d'organiser une gay pride. Elle estime que cette demande a incité les autorités tchétchènes à faire ce qu'elles appellent des purges préventives. L'accusation est réfutée par la personne en question, Nikolaï Alexeïev, qui estime que les gays en Tchétchénie ne sont pas plus menacés qu'ailleurs en Russie. Un point de vue donc qui n'est pas partagé par le réseau LGBT qui lui aide les homosexuels de Tchétchénie à fuir.
Merci Muriel Pomponne à Moscou. Chaque année, en Italie, 150 000 têtes de bétail disparaissent, dont plus de la moitié en Sicile. Derrière ces vols, un sale business, celui du marché noir de la viande, qui n'est pas sans risque pour la santé des habitants. Cécile Debarge.
Le parc naturel des Nebrodi, dans la province de Messine, est souvent considéré comme l'un des plus beaux de Sicile. Depuis près d'un an, et la tentative d'assassinat du président du parc, c'est surtout devenu le symbole d'un territoire hors de contrôle, et c'est là qu'a éclaté un énorme scandale sanitaire. Au départ, on a des vols de chèvres et de vaches. Rien de bien méchant, peut-on se dire. Sauf qu'en Sicile, entre 2011 et les premiers mois de 2016, ce sont près d'un demi-million d'animaux d'élevage qui ont disparu. Ces mêmes animaux sont ensuite abattus dans la clandestinité, puis revendus sur un marché noir de la viande. Aucun contrôle sanitaire, aucune taxe à payer, les bénéfices pour les revendeurs sont évidents. Ils le sont bien moins pour les habitants qui, sans forcément le savoir, mangent de la viande impropre à la consommation. Sur 430 cas de tuberculose bovine dans toute l'Italie, 330 concernaient la Sicile. Et l'année dernière, dans la seule province de Messine, 133 personnes ont été atteintes de brucellose, une maladie qui est transmise par les animaux et qui se manifeste notamment par de très fortes poussées de fièvre. En réaction à ces chiffres alarmants, la région Sicile a lancé une enquête sur la filière de l'abattage et de la viande. Au total, 50 personnes ont été mises en examen, parmi elles plusieurs vétérinaires des autorités sanitaires siciliennes et un commissaire de police adjoint.
Ce n'est encore qu'une expérience limitée à quelques dizaines de personnes, mais la ville de Munich en Allemagne pourrait bien être un de ces laboratoires où l'on trouve une solution au mal logement. Dans cette métropole où les demandes d'appartements et donc les loyers explosent, une coopérative immobilière, Wagnis, a mis au point un système d'appartements partagés. C'est le concept d'appartements cluster ou appartements modulables. Reportage à Munich auprès de ses nouveaux habitants, signé Pauline Curté.
Bienvenue chez Mira Matsumdar. Cette comédienne de profession vit dans ce que l'on appelle ici un cluster Wohnung, un appartement cluster. Le principe, à quelques stations de métro du centre-ville de Munich, Mira, son mari et leurs deux enfants partagent un grand appartement avec une autre jeune femme qui a également un enfant. Mais attention, il ne s'agit pas d'une colocation traditionnelle. Chaque famille dispose de deux chambres, d'une salle de bain et d'une petite kitchenette. Mais elles partagent aussi un grand salon et une autre cuisine avec tout l'équipement nécessaire. La famille de Mira Matsumdar a emménagé dans cet immeuble tout neuf, voilà un an environ, et n'en revient toujours pas d'avoir la chance de pouvoir vivre dans un lieu pareil.
Je suis comédienne, mon mari est musicien, nous avons deux enfants, nous ne sommes pas salariés et avons des revenus fluctuants. Alors autant vous dire qu'à Munich, aucun propriétaire ne voulait de nous. Ici, nous avons notre logement privé et profitons en même temps d'une vie sociale. Cela correspond exactement à notre façon de vivre.
Wir sind absolut keine Sicherheit und auch noch sind wir eine Familie.
La famille de Mira Matsumdar dispose de 80 mètres carrés privés, auxquels s'ajoutent plus de 30 mètres carrés communautaires. Pour cela, il paie 1300 euros par mois, toutes charges comprises, en plus d'une contribution de 80 000 euros à la coopérative immobilière versée à leur arrivée. Ils la récupéreront s'ils quittent leur logement. Bref, on est bien en dessous des prix du marché munichois pour une telle superficie. En échange, il faut s'accommoder de la vie en communauté. Ce n'est pas un problème pour Mira, mais elle reconnaît que cela peut être plus compliqué pour d'autres habitants.
Pour notre colocataire, je pense que c'était un peu difficile au début. Elle se sentait tout le temps exposée aux yeux des autres. Mais je crois que maintenant, elle s'est habituée. Elle se sent bien à la maison. Elle a compris que nous ne formions pas de jugement sur sa manière de vivre.
Dans l'appartement, les règles sont minimes. Chacun fait son ménage et contribue à une caisse commune pour les frais d'électricité, par exemple. Les colocataires, c'est ainsi qu'ils se désignent, ont aussi partagé les frais pour meubler les pièces communes. Ils se préparent maintenant à accueillir une autre famille dans leur appartement, qui s'installera dans le dernier logement inoccupé, preuve que cette forme d'habitation fait de plus en plus d'adeptes. Anna Schmidhuber habite dans l'un des plus grands appartements cluster de la coopérative. Il compte 8 logements privés d'environ 40 mètres carrés chacun, une grande cuisine, un salon commun et une superbe terrasse. La jeune munichoise paie 560 euros de loyer, encore une fois bien en dessous des prix du marché. Mais pour elle, le plus important est la stabilité que lui offre cette forme de logement.
Si j'habitais dans un petit appartement ordinaire à Munich, je pourrais être victime de la spéculation immobilière. On peut augmenter votre loyer de manière drastique sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Ici, grâce à la coopérative, je sais que le loyer ne changera pas. Et quand mes amis viennent visiter mon appartement, ils ne reviennent pas. Avoir accès à autant de surface pour ce prix-là, c'est incroyable.
Seul bémol pour Anna, elle aimerait passer plus de temps avec ses colocataires.
Quand j'ai aménagé ici, j'imaginais vivre plein de choses avec eux. Nous nous retrouvons une fois toutes les deux semaines pour parler de choses pratiques, par exemple l'achat de mobilier pour les pièces communes. Et nous cuisinons ensemble aussi parfois. Mais c'est tout. J'aurais voulu par exemple que nous organisions des excursions, mais ce n'est pas évident car nous travaillons tous et n'avons pas toujours le même emploi du temps.
Pour le moment, le projet reste limité à quelques dizaines de locataires seulement. On est encore loin d'une solution durable pour la crise du logement à Munich. Mais cette initiative pourrait bien attirer l'attention des autorités qui cherchent absolument une solution aux défis qui se posent à la capitale de la Bavière. D'après des estimations, elle accueillera d'ici à 2030 300 000 habitants supplémentaires, tandis que les terrains pour de nouvelles constructions de logements se font de plus en plus rares et que les loyers, eux, continuent de monter en flèche.
Des fonds européens utilisés pour transformer une ancienne ferme en maison close. Ce n'est pas une blague, mais un beau dérapage épinglé par la presse qui en profite pour critiquer le gaspillage de l'argent public et européen. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Une chaîne de télévision allemande a récemment confirmé l'entourloupe en filmant en caméra cachée dans ce bâtiment rénové grâce aux 40 000 euros accordés dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural. En fait, le cas avait déjà été traité par la presse tchèque qui précisait que la propriétaire des lieux avait été sommée de rembourser la subvention en début d'année quand il avait été établi que d'une soi-disant pension touristique, elle avait fait un établissement au nom sans beaucoup d'ambiguïté, le Party Night Club XXX. Cette affaire n'avait eu qu'un faible retentissement à Prague, dans la mesure où la somme était relativement modeste, mais aussi et surtout dans un contexte où le détournement de fonds communautaires semble être un sport national. Même le ministre tchèque des Finances, pourtant richissime, a récemment été pris la main dans le sac des subventions de Bruxelles, indûment perçues, pour rénover une ferme. Lui n'en a pas fait une maison close, mais force est de constater que la gestion locale de l'argent européen le laisse à désirer. Pour tenter de limiter les abus, Prague fait cependant des efforts et vient de signer un texte pour mettre en place un nouveau parquet européen, parquet justement chargé de traquer la fraude à la TVA et les détournements de fonds communautaires.
C'était il y a presque un siècle. L'artiste peintre Gerda Wegner réalisait des portraits de son mari Einar, premier transsexuel de l'histoire, devenu Lili Elbe, une femme et muse de l'artiste. Une vaste exposition, Gerda Wegner and the Danish Girl, en référence au film qui a été tiré de leur histoire, se tient au musée Millesgården de Stockholm. Violette Goharan y est allée pour nous.
Ce ne pourrait être que de simples portraits de femmes des années 20 exposés au musée Millesgården à Stockholm. Mais derrière les sourires, les phares et les couleurs se cache une histoire belle et tragique racontée dans le film de Tom Hooper, The Danish Girl. Dans les années 20, Gerda Wegener, peintre franco-danoise, a réalisé des portraits de femmes en prenant comme modèle son mari, le peintre Einar Wegener. Einar, ou plutôt Lili Elbe comme il s'est rebaptisé, est le premier transsexuel au monde à s'être fait opérer pour changer de sexe. Gerda est restée auprès de Lili pendant sa transition, faisant de son mari sa muse. Ses portraits de femmes dans la lignée de l'art nouveau s'adressent au monde de la mode, mais poussent aussi à engager une réflexion avant-gardiste sur la sexualité et le genre. Dans Lili avec un éventail à grandes plumes de 1920, peinture phare de l'exposition, Lili pose avec assurance et grâce en robe rose, presque de dos avec un regard mi-clos tourné vers le spectateur sur fond de tapisserie tropicale. Le portrait en dégagerait presque un parfum poudré. Aujourd'hui, ces toiles ancrent l'histoire dans la réalité et font le lien avec le film qui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à la Suédoise Alicia Vikander qui jouait Gerda. Les vraies peintures de The Danish Girl sont exposées à Stockholm jusqu'à mi-mai grâce à un arrangement avec le musée d'art moderne Arken situé au Danemark.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.